Et vous écoutez toujours Delirium Environnemental, le magazine radio d'information en environnement. Je voudrais pas faire de la promotion pour Étienne Côté-Paluc, mais c'est lui qui fait notre site internet que vous trouvez au www.radiodelirium.net et il est magnifique ce site. On va clore la question. On parlait des OGM juste un peu plus tôt avec Monsieur Pasquale Gomez de Greenpeace. Juste peut-être en terminant, Madame Ouda Pépin, Frida? Non.
Non, Fatima. En
fait. Fatima Ouda Pépin, donc celle qui était présidente.
C'est en fait la présidente de la commission parlementaire de l'agriculture à l'Assemblée nationale, et c'est elle qui avait pris position la semaine passée. Vous vous en rappelez, on en parlait à l'émission le 15 novembre dernier. Elle avait pris position assez claire sur la question de l'étiquetage obligatoire des aliments modifiés génétiquement, en disant que c'était une norme recherchée en matière de qualité, et elle se mettait directement à dos Françoise Gauthier, ministre de l'agriculture. On se demande où était Madame Ouda Pépin dans les débats qui se sont tenus à l'Assemblée nationale la semaine passée.
Elle était très présente et elle a même voté pour la motion de Françoise Gauthier. Motion que je vous le rappelle qui dit que le Québec ne va pas de l'avant sans ses partenaires canadiens. Donc le Québec ne va pas de l'avant parce que les partenaires canadiens ne vont pas de l'avant avec l'étiquetage obligatoire des OGM. Donc Fatima Ouda Pépin, eh bien, blâme, que
Solide
dire,
blâme.
Un coup de masse. Je crois, c'est vraiment un recul. Je suis très triste et j'invite les gens à voter pour autre chose qu'elle, autre personne.
Faut peut-être juste rappeler les deux principes que Mme Ouda Pépin rapportait pour guider le Québec en matière d'étiquetage obligatoire. Elle disait, c'est pour défendre le droit du public à être informé, c'est-à-dire à connaître le contenu réel des aliments qui se trouvent sur la table, premier principe. Deuxième principe, défendre le principe de précaution selon lequel, par mesure de sécurité, l'étiquetage indique le contenu réel des produits. Alors, elle-même ayant dit ça une semaine, il y a une semaine, et bien maintenant, elle se revire de bord et puis s'en va se cacher dans le sable. Telle une autruche.
C'est l'épisode Fatima Ouda Pépin ou comment se faire avaler par un parti politique. Et juste vous dire rapidement une dernière citation de Mme Françoise Gauthier, je vous rappelle, ministre de l'Agriculture au Québec. Eh bien, Mme Gauthier nous dit comme ça qu'il faudrait pas entrer dans la démagogie de faire en sorte de laisser croire aux gens qu'effectivement la santé de la population des consommateurs est compromise par les OGM. Et par la suite, elle nous dit, elle parle de démagogie, elle nous dit les OGM ont été évalués avant d'être commercialisés et il n'y a pas de risque imminent pour la santé et l'environnement.
Ouh,
eh bien, je m'excuse, madame, mais il y a un manque flagrant d'études là-dessus et tout le monde en parle et c'est ça pourquoi les gens se battent. Donc, quand vous parlez de démagogie, regardez donc votre nombril.
De retour à Delirium Environnemental, donc une autre nouvelle qui a fait l'actualité cette semaine, peut-être pas suffisamment, mais bien sûr Louis-Gilles Francœur du Devoir, là je dis Louis-Gilles Francœur du Devoir était là pour en écrire, en parler, par écrit. Bref, notre cher ministre Thomas Mulcair, ministre de l'Environnement, donc s'est fait porte-parole des compagnies de sept enfouissements cette semaine.
Mais oui.
Suite à un BAP, un bureau d'audience publique qui avait été tenu au printemps sur la question de l'agrandissement du site d'enfouissement de Sainte-Sophie, donc juste ici, pas très loin de Montréal. Une augmentation d'une tonne, si ma mémoire est bonne.
Un million de tonnes.
Un million de tonnes.
Une petite différence comme ça.
Il manquait juste un million dans ma phrase. Donc, ça a été accordé par décret. Monsieur Mulcair a accepté. Et pour en parler avec nous, on a pensé que ça serait très intéressant d'entendre Monsieur Normand Baudet, qui est un des administrateurs et porte-parole dans le dossier Sainte-Sophie pour le Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Donc, Monsieur Baudet est en ligne. Bonjour, Monsieur Baudet. Vous allez bien?
Oui, très bien. Merci.
Donc, selon vous, la décision du ministre Mulcair va-t-elle dans le sens des conclusions du BAP qui s'est tenu au printemps?
Non, du tout. On voit ils ont choisi ce qui leur plaisait dans l'ensemble des recommandations. Là, il y en avait, je dirais, pour tout le monde dans les recommandations du BAP. Alors, ils ont choisi celle-là qui, finalement, favorise de façon, je dirais, honteuse là, l'industrie de l'enfouissement. Et c'est un peu, donc, la poursuite des activités contraires au développement durable en gestion des déchets là, qui vont continuer là, par ce décret-là. Là.
Moi, deux choses qui m'ont surprise dans ce dossier-là, c'est qu'on sait très bien que la nappe phréatique à Sainte-Sophie est contaminée.
Exactement. C'est un des deux points majeurs là, qui nous font dire que ce dépotoir-là aurait dû, et il y avait des recommandations du BAP là, qui allaient dans ce sens-là, devrait être décontaminé, premièrement, parce que effectivement, ça s'est avéré durant les audiences publiques et c'est vrai, c'est reconnu maintenant. Alors, il y a de puissants Exivia, là, qui sont des produits extrêmement toxiques, là, qui viennent de l'enfouissement pêle-mêle, qui ont atteint, rejoint les nappes souterraines.
Est-ce qu'il y a beaucoup de communautés qui s'abreuvent de cette nappe phréatique-là?
Oui, effectivement. Il y a, donc, il faut comprendre que l'eau souterraine, l'eau coule sous le dépotoir, donc, et donc les Exivia ont rejoint cette nappe souterraine-là et coulent en direction sud. Alors, en direction sud, qu'est-ce qu'il y a? À quelques mètres et quelques centaines de mètres, il y a des productions maraîchères. Et là, je vais vous conter une histoire là, qui s'est produite sur les terres là, de producteurs de fraises. Et pas très loin non plus, à quelques kilomètres, il y a un pénitencier fédéral de Sainte-Anne-des-Plaines. Et il y a aussi la municipalité de Sainte-Anne-des-Plaines, 16 000 habitants. Qui est là et qui, donc, s'abreuve son eau potable à partir depuis. Alors, il y a des enjeux de santé publique extrêmement importants et on a l'impression, nous, qu'on met en place, là, les conditions pour un Walkerton québécois, là.
Donc, on sait.
On est inquiet de voir qu'ils ont autorisé et aussi, finalement, l'approche, là, qui a été mise dans le décret ne vise pas à, donc, aucune mention de la décontamination.
Mm-hmm.
Et on a une série de mesures là, qui, finalement, nous font observer la croissance de la contamination vers ces puits-là d'alimentation d'eau potable.
Bon, on s'en doute, problème de contamination de l'eau, entre autres à cause du fonds argileux à Sainte-Sophie. Vous êtes donc l'un des membres du Front québécois pour une gestion écologique des déchets. J'aimerais ça qu'on puisse parler de choses peut-être plus positives. Est-ce qu'il y aurait pu avoir des alternatives à cette décision du ministre Mulcair d'autoriser l'augmentation de la capacité d'accueil des déchets du site de Sainte-Sophie? Donc, au niveau des alternatives, est-ce que ça aurait été possible d'en trouver?
Oui, nous, depuis des années, on en parle, on les met de l'avant, évidemment, le ministère de l'Environnement, les ministres successifs n'ont d'oreille que pour les multinationales de l'enfouissement, pour les enfouisseurs. Nous, on parle que, premièrement, il faut agir, je dirais que c'est les deux R dont on parle. Alors, réduction à la source. Alors, il est plus que temps que une réglementation intelligente, par exemple sur l'emballage. C'est un exemple là, qui est souvent cité.
Mm-hmm.
On avait une réglementation intelligente sur l'emballage pour réduire l'emballage, donc réduire les déchets que nous générons, hein, qui sont à la hauteur de 11 millions de tonnes par année au Québec. Alors, si déjà le robinet là, qui génère tout ça, s'il y avait une réglementation intelligente et efficace, comme ça se fait ailleurs, et qui n'allait pas se laisser aller là de l'industrie de produire n'importe quoi avec n'importe quel produit comme c'est là. Alors, réduire à la source, on génère moins de déchets. Et régionalisation, c'est-à-dire que chaque communauté...
s'occupe de ses poubelles.
Pardon?
S'occupe de ses poubelles.
Et, alors, c'est pas dans ma cour, mais c'est chacun dans sa cour que nous, on met de l'avant. Et si ça était appliqué, déjà, ça permettrait non seulement de contrôler les impacts de plus petits dépotoirs hein, dans les régions et tout ça. Et donc...
ça serait des solutions qui seraient plus qu'intéressantes.
Exactement, Monsieur... parce qu'à l'heure actuelle, c'est extrêmement concentré. 5 dépotoirs du Québec, là, dont celui de Sainte-Sophie, qui est parmi les importants, enfouissent 75% des déchets du Québec. Alors, ça, c'est absolument injuste. C'est pas du développement durable. Ça, c'est vraiment un projet d'industrie, de multinationale, et ça détourne, en fait, toutes ces déchets-ressources-là.
Merci beaucoup, M. Baudin. On va devoir s'arrêter ici. On rappelle donc sur cette note que nous sommes tous et toutes responsables, citoyens et citoyennes, de ces problèmes-là de contamination par les lixiviates, que ce soit dans n'importe quel dépotoir du Québec. Mais on est avec vous, le Front commun pour la gestion écologique des déchets. Que tout le monde fasse sa part. Merci beaucoup, M. Baudin. Et vous écoutez toujours Delirium environnemental. On va finir sur la question des déchets. Finir, on s'entend que ça se peut comme pas, là, parce qu'il n'y en a plus de fin à ce problème-là. Mais on va quand même essayer de clore sur cette question-là. Sainte-Sophie, c'est un des sites d'enfouissement qui est problématique. Il y en a d'autres au Québec, Nicolas Mainville.
Mais ouais, en fait, on a 64 dépotoirs au Québec. Il y en a 5 méga-dépotoirs qui récupèrent 75% de ces déchets-là au Québec, comme le mentionnait monsieur juste avant. Et puis, évidemment, la question de Lachenaie était revenue sur le dossier environnemental en avril dernier, lorsque le ministre Mulcair avait accordé encore une fois la même situation, mais c'était BFI et non pas Intersan. Vous savez, c'est Intersan à Sainte-Sophie, mais BFI est la société qui fait l'exploitation de Lachenaie. Et puis, il avait accordé une augmentation de l'entrée de déchets de 1,3 million de tonnes pour l'année qui vient, donc environ une année d'exploitation de plus, parce qu'il était supposé être fermé, ce Lachenaie-là. Et puis, ben maintenant, c'est un regroupement, un comité de citoyens de la presqu'île Lanaudière, des riverains du site de Lachenaie, qui intente une mise en demeure contre le ministre de l'Environnement, M. Mulcair, le premier ministre, M. Charest, et le ministre de la Santé, M. Couillard.
Peut-être juste rappeler qu'une mise en demeure, on pose une mise en demeure pour interpeller, pour dire la prochaine étape, ça va être une poursuite en justice. C'est juste comme l'étape, une étape de déroulement.
C'est en fait un prélude évident pour une demande d'injonction. Donc, c'est une demeure par huissier qui a été faite. Et voilà. Puis, évidemment, ça va être intéressant de voir les conclusions de ce dossier-là, puisqu'on utilise le mécanisme juridique pour essayer de contrevenir à cette augmentation du tonnage pour le dépotoir de Lachenaie, un dossier à suivre.
Dossier qu'on suivra ici à Delirium environnemental, bien entendu. Pour ceux qui ne pourraient pas nous écouter, vous pouvez aussi aller nous lire sur le site internet au www.radiodelirium.net. Nicolas Mainville, merci beaucoup pour cette nouvelle sur Lachenaie. Nous y reviendrons, c'est sûr. Un autre problème au Québec, c'est la disparition des milieux naturels. Dans ces milieux naturels-là, il y en a qu'on appelle les milieux humides, qui sont particulièrement importants pour la régénérescence des écosystèmes et pour la prolifération de la biodiversité. Donc, les milieux humides, c'est quelque chose qui est problématique. Cette semaine, encore une fois, Monsieur Mulcair, vous n'êtes pas le vendeur de l'environnement, hein? Vous êtes le protecteur de l'environnement. Je vous parle à vous personnellement parce qu'il vient de délivrer un certificat d'autorisation de construction dans un milieu humide. Belle idée. Donc nous, pour nous en parler, on parle avec M. Tommy Monpetit, qui est président du comité Sauvons nos boisés et milieux humides, que l'on a quand même entendu parler parce qu'ils font un beau travail.
Très actif,
donc,
oui.
Oui, M. Monpetit est en ligne avec nous. Bonjour M. Monpetit, vous allez bien?
Oui, très bien, vous-même.
Très bien, je vous remercie. Peut-être une question d'ordre général avant de tomber précisément dans la question de cet avis-là du certificat qui a été délivré. Donc, j'aimerais, si vous pouvez me parler un petit peu de l'état des milieux humides au Québec.
Bien, environ, selon les scientifiques, de 1 à 10% de la superficie originale des milieux humides qui restent au Québec. Et puis, quand on sait qu'il y a environ 35% des espèces menacées ou vulnérables qui résident dans ces milieux humides-là, ça devient de plus en plus inquiétant lorsqu'on voit qu'un certificat d'autorisation est délivré dans un milieu humide.
À votre connaissance, qui est responsable de la gestion et de la protection des milieux humides? Puis, est-ce que le Québec s'est doté d'une politique de protection des milieux humides?
Malheureusement, c'est le ministère de l'Environnement qui...
c'est rassurant.
...livre les autorisations dans les milieux humides. Et puis, la politique qui était à ce jour, c'était presque une politique automatique. Donc, on demandait un certificat d'autorisation, on l'obtenait. Et si on était en infraction, on demandait un certificat d'autorisation et on l'obtenait après le fait, donc post-mortem. Mm. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut faire arrêter cette hémorragie-là, il faut faire protéger les milieux humides au Québec.
Donc, justement, ça serait ma dernière question. Qu'est-ce qu'on devrait faire en tant que société pour assurer la protection des milieux humides?
Bien, il faudrait que tous les citoyens se mettent à adopter et à être sensibilisés aux milieux naturels, surtout aux milieux humides, parce qu'ils ont une importance incroyable, surtout au niveau des inondations, là, la capacité de rétention des eaux. Il faut qu'il y ait un plan de conservation globale là, qui soit installé au Québec pour qu'on étudie sérieusement la question.
Et puis, d'ici là, pourquoi pas un moratoire sur la construction dans les milieux humides?
Exactement, mais c'est ce qu'on demande depuis environ un an et demi, et je crois que c'est à ça qu'on va en amener, parce qu'on n'aura pas le choix à un moment donné.
Mais monsieur, mon petit président de Sauvons nos boisés et milieux humides, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Il faudra en reparler plus longuement, c'est sûr.
Oui, merci beaucoup.
Merci, au revoir. Vous écoutez toujours Delirium environnemental. Je vous rappelle que c'est une émission spéciale cette semaine. Hein. On fait ça vite, parce qu'on met, parce qu'on participe, on fait notre part pour le défi des 1000 de CIBL. Et qu'habituellement, on aime ça prendre le temps avec les intervenants d'aller au fond des choses, mais qu'aujourd'hui, à cause du défi des 1000, c'est plus compliqué. Alors donc, on parlait de la question des milieux humides. Quelque chose qui est intéressant, c'est que quand on prend des décisions, par exemple, quand le BAP a lieu, quand on tient un BAP, un bureau d'audience publique en environnement, on appuie nos décisions puis nos façons de comprendre l'état de l'environnement sur des rapports, sur des bilans qui nous parlent de l'état de l'environnement. Donc, dans le cas des milieux humides de Longueuil, donc le bilan qui a été utilisé pour faire ça a été vertement critiqué par trois scientifiques, entre autres. Et l'un de ces scientifiques-là, c'est M. Jacques Brisson. Un instant, on me dit qu'on a un peu de difficulté à le rejoindre. On va continuer quand même d'essayer. Je vous conte quand même l'histoire. Donc, on a fait un bilan pour caractériser l'état de ce milieu humide-là. Et donc, l'un des trois scientifiques qui critique vertement la méthodologie utilisée, c'est M. Jacques Brisson. Jacques Brisson est professeur au département des sciences biologiques de l'Université de Montréal. Et selon lui, la méthodologie qu'on a utilisée, écoutez bien ça, les gars, c'est une approche qui est naïve, voire dangereuse. Donc, dès qu'on va réussir à le rejoindre, on va lui demander qu'il nous explique pourquoi, selon lui, c'est une approche naïve, voire dangereuse.
On peut peut-être déjà dire d'emblée, justement, que cette étude-là concluait qu'il y avait environ 25% des milieux humides qui restent, justement, à la ville de Longueuil, qui devraient être protégés. Donc, seulement un quart des milieux humides. Et Monsieur Montpetit vient tout juste de nous dire que, justement, il n'y en a plus de milieux humides au Québec. Donc, ce qui conclut là-dedans, c'est qu'on a peu de milieux humides au Québec, entre autres à Longueuil, puis qu'on devrait simplement en protéger 25% quand les trois scientifiques, dont M. Brisson, arrivent et disent « ça n'a aucun sens cette étude-là » parce que ce qui est important, c'est de protéger les milieux humides. Puis vu qu'on en a plus, il faudrait tous les protéger, pas simplement 25% de ces milieux-là. Puis on se souvient, entre autres, c'est lié énormément à l'étalement urbain et à l'augmentation des terres agricoles qui prennent de plus en plus d'ampleur au Québec.
Exactement. Je pense qu'il faut se questionner justement sur notre rôle qu'on a à jouer sur les milieux humides, l'impact qu'on a. Je pense que l'étalement urbain, comme tu le mentionnes, Patrick, c'est le centre de la problématique. On a de plus en plus focusé sur l'étalement un petit peu plus large. Toutes les couronnes prennent de plus en plus d'importance. Et puis, avec la superbe voiture, on peut maintenant se permettre de se déplacer pendant des heures dans le trafic pour retourner à la maison. Je pense que c'est là qu'on doit se questionner à la base et le poids qu'on a sur les milieux humides. Il faut se rappeler aussi que les basses terres du Saint-Laurent étaient d'immenses marécages jadis, naguère. On n'avait pas des gros champs comme ça. Toute la Montérégie était des terres inondées avec une biodiversité incroyable avec des pins blancs d'un diamètre impressionnant. Et puis tous ces milieux-là ont été modifiés pour l'agriculture. Et puis ce qui reste en ce moment, c'est un patrimoine non négligeable qu'il faut faire attention, évidemment.
Bien, merci beaucoup pour ce commentaire fort intéressant. J'espère qu'on réussira à rejoindre M. Jacques Brisson, biologiste donc à l'Université de Montréal, pour qu'il nous parle de sa critique de la méthodologie. Je pense que tout le monde ici autour de la table, on va être, et tout le monde aussi à la maison qui nous écoutait, vous allez être assez intéressé d'entendre justement un scientifique critiquer comme ça une méthodologie. C'est vraiment intéressant. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes. On vous l'annonce tout de suite parce que je pense que ça va être un événement fort important. Il y a un colloque international qui va se tenir en janvier 2005. C'est le Éco-Défi 2005. Et donc, c'est un colloque qui se tient et qui va être sur la question de la santé et de l'environnement. On vous en parle ici souvent du lien santé-environnement. Et donc, pour nous en parler aujourd'hui dans le cadre du Défi des 1000 de CIBL, on a le plaisir de s'entretenir avec Mme Caroline Voyer, qui est coordonnatrice du colloque, mais également du Réseau des femmes en environnement. Et oui, il existe un réseau des femmes en environnement. Et donc, elle est également coordonnatrice de cet organisme-là. Donc, on a le plaisir de nous entretenir avec Mme Voyer. Mme Voyer, vous allez bien?
Oui.
Donc, on voulait vous parler directement parce qu'on voulait entendre de vive voix quels étaient un peu les buts et objectifs de ce colloque qui se tiendra donc en janvier, pour être plus précise, du 20 au 22 janvier 2005.
Oui, en fait, notre but, c'est qu'il y ait le plus de gens possible qui soient conscients des liens qu'il y a entre la santé et l'environnement, des liens qu'on ne fait pas toujours.
Et est-ce que, dans ce sens-là, est-ce que vous pouvez me parler un peu des thématiques qui vont être abordées, parce que c'est un colloque qui se tient sur 3 jours, donc j'imagine qu'on va avoir le temps de brosser tout un portrait de ces liens-là qui existent entre la santé et l'environnement?
En fait, pour brosser le portrait complet, je pense que ça prendrait plus que 3 jours, mais en fait, on a essayé de condenser plusieurs thèmes. Entre autres, on va parler des milieux où on est exposé à différents polluants, l'eau, l'air, les sols. On va parler des changements climatiques, de la contamination de la chaîne alimentaire. On va parler des différentes sources d'agressions qui peuvent affecter notre santé. En fait, on va parler des OGM. Donc, j'ai apprécié l'intervention tout à l'heure sur les OGM. On va parler des pesticides, des métaux lourds, Les champs magnétiques.
Des champs magnétiques, c'est un enjeu duquel on parle pas souvent. Moi, je vais être curieuse d'aller voir ça. J'ai aussi été curieuse de voir que vous allez avoir un thème qui va être réservé médias et environnement.
Oui, en fait, c'est ça. Dans la deuxième journée, on va essayer de trouver des pistes d'action. Comment on peut se conscientiser? Comment on peut changer les choses? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen? Et donc, oui, on va parler entre autres de la place qu'on fait à l'environnement dans les médias.
Excellent. Puis j'aimerais savoir, parce qu'on dit que c'est le réseau des femmes en environnement, c'est quand même ouvert au grand public. Tout ça, c'est pas seulement grand public femmes ou seulement scientifiques, c'est ouvert au grand public. Puis si les gens veulent participer, comment est-ce qu'ils peuvent faire?
Ils peuvent s'inscrire, ils peuvent nous téléphoner. Je peux vous donner rapidement notre numéro de téléphone, 514-840-2747. Poste 2461, mais il y a aussi surtout notre site Internet où vous trouvez toute l'information et où les gens peuvent s'inscrire. C'est le www.ecodefi.org.
Et Madame Caroline Voyer, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions au sujet du colloque Éco-Défi 2005 qui se tiendra en janvier 2005. On aura l'occasion d'en discuter ensemble, j'en suis certaine. Merci beaucoup.
Au revoir.
Vous écoutez toujours Delirium Environnemental, le magazine radio en environnement au Québec. Je m'excuse, je me suis accrochée dans mes paroles. Ça vient de Legendre au micro en compagnie de l'équipe magique Patrick Bonin, Nicolas Mainville ainsi que Étienne Côté-Paluc. Et c'est déjà le temps des petites vites en bref cette semaine. Malheureusement, on n'arrive toujours pas à rejoindre Monsieur Brisson, Jacques Brisson, biologiste à l'Université de Montréal. Mais comptez sur moi qu'on va lui poser la question sur pourquoi est-ce que cette méthodologie-là est naïve, voire dangereuse. Parce que moi, ça m'intéresse de savoir que c'est pas tout le temps du béton ce qu'on utilise comme information. Donc, on poursuit donc avec les brefs petites vites cette semaine, mais si on a parlé à beaucoup d'intervenants, ça fait qu'on a eu moins le temps peut-être de parler des nouvelles internationales, entre autres choses. Qu'est-ce qui a occupé votre esprit cette semaine en termes d'actualité environnementale?
Bien, une nouvelle qui est un peu triste de passer rapidement, mais bon, qui est importante à mentionner. 58% des coraux qui sont en danger, c'est un nouveau cri d'alarme lancé par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui fait un rapport assez troublant, en fait, qui va déposer un rapport bientôt sur la situation des coraux dans le monde. Vous savez que c'est une partie des écosystèmes marins qui sont extrêmement importantes point de vue chaîne alimentaire et tout ça. Et puis, on nous dit qu'ils sont extrêmement en danger en raison de la pollution, de la surpêche des poissons, des récifs et autres facteurs liés à l'action de l'homme. La question des changements climatiques revient à la surface en sachant si les températures fluctuent dans les océans. On sait que les coraux sont extrêmement sensibles aux fluctuations de température. Lorsqu'on regarde plus précisément en Asie du Sud, on parle de plus de 60% des coraux qui ont disparu en 98 lors du dernier épisode El Niño, donc les petites fluctuations de température. Et quand on regarde les Caraïbes, eh bien c'est 80% des coraux qui ont déjà tous disparu. Et évidemment, c'est un cri d'alarme qui est tout à fait justifié.
Mais j'ai l'impression que ça fait plein de fois que j'entends ce cri d'alarme-là.
Oui, hein? on les répète à chaque année, mais bon, c'est important de le faire puisqu'il y a des mesures à prendre. Il y a déjà des pays qui ont pris certaines mesures, mais c'est loin d'être satisfaisant.
Ben merci beaucoup pour cette nouvelle. Si vous permettez, on saute du coq à l'âne, de l'âne au coq. On revient à la question des transports. Vous savez, ici, on a un expert en transport et c'est Monsieur Hugo Lachapelle. Hugo Lachapelle est en ligne aujourd'hui pour participer à sa façon à l'émission. Hugo, ça va bien?
Ben, salut tout le monde. Je sais pas si ça va si bien que ça, non, en fait.
Non, grosse nouvelle dans le domaine des transports en commun à Montréal. Je te permets à toi de t'insurger contre cette nouvelle-là.
Ben, imaginez-vous donc, c'est la quatrième hausse de tarifs depuis 2003. Alors, on n'est pas trop surpris. Une hausse de 3,3%. Qui va faire passer la CAM de 59 à 61 $ et un peu tout le reste du tralala qui va monter. En même temps, qu'est-ce qu'on constate? C'est toujours une plus grande proportion qui est payée par le client. Hein?
Le client étant le citoyen, on s'entend?
C'est l'usager, en fait.
Hein? Mot client est problématique ici, merci. L'usager ou en tout cas.
Alors, donc, augmenter 4 fois... Alors, quand les clients nous disent qu'ils se trouvent dans une situation précaire, on a noté une baisse de 5 millions des déplacements par transport en commun. Et puis, je vous fais remarquer qu'on voit pas plus de vélos ou de piétons sur les routes depuis.
Non, mais on en voit plus sous les roues, par exemple, souvent. Ouais.
Donc, ils se retrouvent, on imagine, dans leur voiture. Et pourquoi que ça a monté? Ben, il y a une hausse de la rémunération et puis une hausse des coûts de l'énergie qui ont totalisé quelques 20 millions dans la dernière année. Et donc, on a décidé de faire augmenter la part des usagers à de 10 millions. Donc, les usagers ensemble
payent
10 millions de plus, alors que la ville nous donne 5 millions de plus.
Ben, merci beaucoup, Hugo Lachapelle, de nous avoir parlé de tout ça. Je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler, puis peut-être qu'on pourra mettre un homme là-dessus, puis aller poser des questions aux gens concernés. Voyons donc d'augmenter encore comme ça 4 fois en 2003, 4 fois en un an.
Et le fédéral là-dedans?
Et le fédéral. Bon, on pose la question.
Et le provincial.
Et le provincial. Peut-être une dernière petite vite, une petite brève en terminant la revue de l'actualité, revue de presse.
Ben écoutez, Toyota Prius, voiture de l'année 2005 en Europe. Encore une fois, on va en vendre 180 000 en 2005. Ça n'arrête plus d'augmenter. Je vous rappelle, c'est une voiture hybride électrique et moteur à essence. Donc, allez voir, entre autres, Discount, Mont-Royal, je fais pas la pub normalement, mais ont décidé d'avoir des voitures hybrides, des voitures de location, si vous voulez l'essayer. C'est le meilleur moment.
Wow, belle idée d'aller essayer ça en louant une Discount, peut-être pour la fin de semaine.
Prenez la liste parce qu'il y a seulement 20 Prius et puis seulement 2 succursales qui l'offre en ce moment.
Donc, il faut téléphoner avant. Messieurs, merci beaucoup. C'est déjà ce qui complète la première heure de Delirium environnemental. Ça a été un plaisir, comme d'habitude. Merci d'avoir joué le jeu du marathon des invités téléphoniques. Malheureusement, il y en a là-dedans qu'on n'aura pas pu rejoindre. On les rejoindra plus tard, probablement. Donc, au retour, on se fait une table ronde. Vous savez, le développement durable, terme galvaudé, s'il en est, ben, on parle de responsabilité sociale des entreprises. Au retour à Delirium.